I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Yeah.
Podcast. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société. Des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire, et à peut-être penser différemment. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Naît-on révolutionnaire ou le devient-on ? Dès l'école maternelle, Roxane décide de ressembler à un garçon, entre guillemets. Elle ne veut pas être mignonne. Elle sent qu'être une fille est réducteur et dangereux. Comme une armure dans cette fosse au lion que les grands appellent le monde, elle met des joggings, s'attache les cheveux tous les jours et refuse d'embrasser sa féminité. Elle a la rage chevillée au corps. Elle aimerait tant que les choses soient différentes. Enlacer tendrement celle qu'elle est, retrouver sa liberté. Que les lions soient de simples chatons, mais la réalité qu'elle l'entoure est tout autre. Alors, cette colère qui brûle en elle et qu'elle a parfois du mal à maîtriser, elle va en faire le moteur le plus puissant qu'il soit pour mettre le feu aux crinières et faire sa révolution. Salut Roxane.
Salut Juliette.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, très bien.
Si je dois répondre plus précisément, c'est compliqué en fait de répondre à la question « ça va ?»
Bah oui, c'est le politiquement correct.
En fait, c'est pas exactement ça, c'est juste qu'il y a plusieurs strates. Tu vois, il y a le micro, le macro, moi je vais bien.
Ouais.
Si je pense au monde, ça va moins bien.
Ouais.
Tu vois, il y a plusieurs...
Alors comment tu vas toi ?
Moi je vais très bien.
Ok.
Je vais enfin très bien à 37 ans.
Ok, ça commence voilà. Fort. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie avant de commencer ?
Alors, je m'appelle Roxane, comme tu l'as dit, j'ai 37 ans. Ce que je fais dans la vie, j'ai un compte Instagram, en fait, qui est à la base l'objet d'études d'un mémoire que j'ai commencé à écrire en 2019, que je n'ai pas terminé, qui avait pour but d'étudier les réseaux sociaux et leur manière d'influencer les gens. Et le sujet, à la base, c'était l'écologie, parce que j'étais en master développement durable. Et en fait, bah, j'ai jamais terminé mon mémoire. Et je crois que je commence tout juste à comprendre l'impact qu'on peut avoir sur ce sujet, sur les réseaux sociaux.
Donc, tu as un compte Instagram qui s'appelle Dear Lobbies.
Dear Lobbies.
Pourquoi dire ouais, les
chers lobbies. Mes chers lobbies, en fait, les lobbies, c'est des groupes de pression.
OK.
Et pour moi, il y a un souci dès lors qu'il y a une pression. Si on te pressionne à penser de telle ou telle manière, ça inhibe ta réflexion et du coup, ça crée un résultat qui n'est pas durable. Donc en fait, à la base, les lobbies, c'était les lobbies agroalimentaires, pharmaceutiques, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des plus petits lobbies, même au sein de l'activisme, des gens qui te forcent à penser comme ci, comme ça. Donc je ne m'attendais pas à devoir combattre des lobbies au sein de mon propre camp. Mais au final, c'est ce que je faisais de base. Et donc, du coup, ça a évolué sur 5 ans. Donc, voilà pourquoi Dear Lobbies. Et mon compte, c'est pas un compte d'opinion, c'est un compte de réflexion. En fait, je veux influencer personne. C'est pour ça que j'appelle ça un média et pas... Je me dis pas influenceuse parce que je veux surtout pas influencer les gens. Je veux leur donner des outils. Je veux faire l'inverse. Je veux leur donner des outils pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes.
Tu leur apportes, en fait, du questionnement.
Je leur apporte des outils,
des réflexions,
des outils, du lexique, des informations, n'allant pas forcément toujours dans le même sens. Et à côté de ça, je fais une alliance avec des récits dans le futur qui, en fait, suscitent l'intérêt.
Okay.
Je ne fais pas de vulgarisation, j'amène les gens à des sources complexes parce que je pense que chacun est capable de comprendre ses sources complexes.
Ouais.
Voilà.
Okay. Si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi ?
Alors, c'est vraiment mes proches qui me voient comme ça, parce que c'est pas totalement exact. Je dirais libre, forte, déterminée.
Eux te voient comme ça.
Eux me voient comme ça.
Ok.
Mais quand je dis que c'est pas exactement ça, c'est que par exemple, forte, en fait, c'est pas que je suis forte, c'est juste qu'à chaque fois que je tombe, je me relève et que j'ai toujours l'intentionnalité de m'en sortir. Et donc, ouais. On me voit comme quelqu'un de forte, mais c'est un problème parce qu'en fait, mes proches, souvent, ne me préservent pas. S'il y a deux personnes qui vont pas bien, on va jamais faire attention à moi.
Ouais.
Parce que Roxane est forte. Sauf que non, c'est juste que peut-être que je le montre pas de la même manière et que moi, je montre ma force et pas ma faiblesse. Mais je suis pas plus forte, en fait.
Ouais. Et puis, t'es pas infaillible.
Donc, certaines personnes pleurent en public. Moi, je pleure en privé, tu vois. J'ai mes faiblesses. Donc, du coup, ça me sert pas toujours.
Ouais.
Je comprends. Voilà.
Quel est son endroit préféré dans le monde et pourquoi ?
Ça va paraître super bizarre, mais je vais te dire le futur.
Le futur ?
Ouais, le futur. J'adore voyager dans le futur. Pourquoi je dis voyager ? Parce que c'est quelque chose que je fais sans faire exprès. En fait, le futur est pour moi, depuis des années, quelque chose qui s'apparenterait à un souvenir. J'ai des flashs du futur, et j'en ai depuis longtemps. Et ça fait peut-être 5 ans que je commence à maîtriser un peu ces flashs et j'arrive à me projeter dans le futur assez facilement.
Mais dans le futur, genre dans une semaine ?
Non, dans... en 2043, 2031, possiblement même 2304.
Quand tu seras plus là.
Quand je... Alors...
Ouais, c'est un sujet.
L'énergie, Einstein, ça se discute. Mais c'est pas des choses que j'imagine, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que je dis, quand on me demande d'expliquer... C'est comme des souvenirs. J'ai des souvenirs du futur.
Oui, c'est comme quand on a des flashs d'enfance.
Ouais.
De trucs de « Oh putain, c'est vrai qu'il s'est passé ça ?»
Exactement.
C'est un truc qui t'arrive...
Ça m'arrive comme ça. Parfois, ça m'arrive et j'arrive pas à m'en rappeler comme un rêve que tu oublies au réveil. Et parfois, ça me reste. Et parfois, j'arrive à replonger dans ces...
Ouais.
Dans ces extraits. J'appelle ça des shots de futur. Et
c'est là où tu te sens bien, en tout
je
cas.
Je me sens super bien là-bas parce que... Enfin, là-bas, ça arrive.
Enfin, en tout cas, avec ça, ce qui te traverse...
Parce qu'en fait, le futur n'est pas si moche que ça. Je suis dans un espèce de réalisme optimiste. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Mais en fait, je crois que c'est ça qui me permet d'être dans l'action parce que j'ai un peu cet espoir que le futur ne soit pas si affreux que ça. Et ça me permet de m'évader.
Mmh. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Bref.
Bref.
Et je crois que je me bref moi-même, en fait, assez souvent, parce que je suis
t'abrèges frère toi-même.
Exactement.
Mais tu t'abrèges meuf.
Voilà.
Ouais.
Parce que je suis assez facilement passionnée par des sujets, et je...
Tu t'auto-fermes ta gueule un peu, parce que sinon tu dis, oh, waouh, je pars...
Je me dis, je peux saouler assez facilement les gens.
D'accord. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?
M'instruire.
Ouais, c'est ce que j'allais dire sans me connaître.
J'adore.
Mais...
En fait, on dit en anglais, knowledge is power, c'est vrai. Le savoir est un pouvoir. Plus j'apprends, mais que ce soit du savoir ou des définitions, plus je me sens puissante. Parce que dans ce monde, il y a la puissance de l'argent, il y a la puissance de l'intelligence, il y a aussi la puissance de l'éloquence. Et en fait, pendant longtemps, j'ai été complexée parce que je me sentais un peu bête, mais on y viendra certainement. Et du coup, je tiens vraiment à m'instruire et à avoir la possibilité d'être en face de quelqu'un d'hyper intellectuel, entre guillemets, et de pouvoir lui répondre. Parce que je suis une femme, parce que très souvent, on m'a prise pour une petite conne, juste parce que je ressemble à ce à quoi je ressemble. J'ai eu des postes de direction, et quand j'arrivais sur des événements, « Ah, c'est la stagiaire !» Oh là là. Et en fait, j'ai eu un petit complexe par rapport à ça, que j'essaye de... Que d'abord j'ai voulu supprimer, et puis j'ai pris goût, en fait, au savoir. Donc ouais, je suis passionnée par l'apprentissage.
Ça se sent. Podcast. T'as grandi donc dans quel environnement familial et social ?
J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une petite famille. Petite parce que je ne connais pas la famille de mon père. Et toute la famille de ma mère est en Espagne.
D'accord.
Donc je connais mon père, je ne connais pas sa famille pour X raisons. Je ne veux pas développer cet aspect-là. Mais du coup, j'avais mes frères. J'ai 2 frères, mes parents, mes grands-parents maternels et mon oncle. Donc pour moi, c'était une petite famille parce que tous mes amis avec des cousins, des cousines, d'ailleurs j'étais très jalouse. Moi aussi, je voulais des cousins et des cousines. J'en avais pas. Bon, c'était comme ça. Et ouais, j'ai eu... pendant longtemps, je me suis sentie seule par rapport à ça. Et le contexte social, ben, j'étais dans la banlieue. Moi, j'étais dans les quartiers pavillonnaires. Mais en fait, j'avais du coup... j'observais. J'ai observé plein de choses. C'était un environnement extrêmement multiculturel. D'ailleurs, je croyais que c'était la normalité pendant longtemps. Quand je me retrouvais à Paris où j'étais entourée que de blancs, je trouvais ça super bizarre. Ça m'oppressait, en fait. Et donc, du coup, dès petite, en fait, j'ai pas vécu le racisme, mais je l'ai vu. Moi, j'étais de classe moyenne, mais j'avais des amis pauvres, très clairement. Et j'ai vu très vite que la méritocratie, ça n'existait pas, en fait. C'était plutôt l'héritocratie. Quand t'es... Enfin, j'entends beaucoup de gens dire « Oui, mais dans la banlieue, ils ont quand même les mêmes perspectives d'évolution. » Non.
Non.
Non, c'est faux. Ouais. C'est faux, je l'ai vu. Et même si c'était vrai, après, il y a des choses qui font que Rachid de banlieue n'aura jamais les mêmes chances que moi. Parce qu'il y a clairement un racisme systémique. Donc ça, je l'ai vu. Donc ça, c'est une des choses qui a titillé, pas ma curiosité, mais on va dire mon aversion pour le pouvoir, pour la politique, etc. Et par ailleurs, j'étais donc dans une petite famille dans laquelle une personne était malade, mon oncle. Il avait le sida. Donc le sida, c'est la maladie qui se déclare quand le VIH n'est pas traité. En fait, c'est le moment où tu n'as plus de défense immunitaire. Sauf que dans les années 80-90, il n'y avait pas encore de traitement. Donc du coup, je suis née en sachant que mon oncle avait le sida et qu'il allait mourir. Donc petite, en fait, ces différentes choses ont fait que j'ai eu un esprit critique, une sensibilité accrue et une notion du sursis de la vie.
Justement, je disais en intro, dès l'école maternelle, elle sent qu'être une petite fille est réducteur et dangereux. Est-ce qu'il y a eu des événements qui vont faire que tu vas perdre ta naïveté d'enfance?
Ah ouais, bah déjà, quand t'es à peine en âge de comprendre les choses, mes parents m'ont dit, voilà, tu fais attention, ne bois pas derrière lui, ne te brosse pas les dents derrière lui, n'utilise pas ses rasoirs. Parce qu'en fait, à l'époque, on savait pas trop ce que c'était cette maladie. Enfin, on savait que c'était extrêmement dangereux. Et on savait pas si c'était contagieux ou transmissible. Donc la contagion, c'est tu te trouves à côté d'une personne, tu peux attraper la maladie, la transmissibilité, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, c'est différent, c'est les fluides, etc. Donc très jeune, tu vois, j'ai déjà conscientisé ça et conscientisé la maladie, la contagion, bref, tout ça. Et par ailleurs, il m'est arrivé un truc à l'école maternelle, c'est-à-dire qu'il y a un des monos de... Comment on appelle ça quand tu vas le mercredi à l'école faire des activités? Le centre aéré.
Ah, le centre aéré, oui.
Un des monos de centre aéré m'a fait des trucs pas très nets.
Mais t'avais quel âge?
Je sais pas, j'étais à l'école maternelle, j'étais toute petite.
Ah oui, d'accord, t'étais pas en primaire à partir du CP, c'était avant, ok.
Non, c'était avant. Et en fait, ça, je m'en rappelais pas, et je m'en rappelle toujours pas complètement, mais je sais que du jour au lendemain, j'ai dit à ma mère, je mettrai plus jamais de jupe.
Ah, donc ça a été le truc qui t'a...
Ouais, je mettrai plus jamais de jupe. Je revenais de l'école avec des cystites parce que je ne voulais plus aller aux toilettes toute seule.
Ah ouais. Mais tu ne te souviens pas ce qu'il a fait?
Alors, je ne me souviens pas de ce qu'il a fait, mais je me souviens que moi, j'ai fait des choses. Je me rappelle qu'une fois, il m'a mise sur ses épaules et que je lui ai pissé dessus volontairement, tu vois.
Ok.
Et parce que j'avais la haine contre lui.
Ouais.
Je me rappelle aussi de moments où j'étais toute seule avec lui, alors que je n'étais pas censée être toute seule avec lui. Donc, j'ai fait de l'EMDR pour essayer de me rappeler.
L'EMDR, c'est les tapotements?
Non, c'est, tu sais, t'as un espèce de bâton en face de toi, que tu regardes, que tu suis des yeux, t'as un casque avec de la sonorité aléatoire dans les oreilles, en fait c'est censé décongestionner des parties du cerveau, et puis il y a un lien avec les pupilles, le thérapeute en face de toi sent quand il y a quelque chose qui est traumatique,
okay.
Du coup il peut appuyer dessus, moi, je pense que je suis pas très, je détaille pas les choses assez bien, mais c'est un peu ça, et je me suis jamais rappelée des choses. En fait, je voulais me rappeler de quelque chose pour porter plainte et pour qu'il fasse plus de mal à personne. Sauf que je ne me suis jamais rappelé des choses précisément. Je me dis que peut-être, possiblement, j'ai été traumatisée ou qu'il m'a fait peur et qu'en fait, il ne m'a rien fait, j'en sais rien. Mais finalement, je ne m'en suis jamais rappelée. Je me suis rappelée de douleur, je me suis rappelée d'odeur, je me suis rappelée de sensations. Mais jamais de trucs, tu vois,
de faits concrets
sur lesquels je peux me baser.
Ouais.
En tout cas,
voilà, du jour au lendemain, tu ne voulais plus mettre de jupe.
Ah non.
t'attacher les cheveux, comme on disait en intro.
Ah, je me suis attachée les cheveux, mais je mettais du gel. Je voulais pas être une petite fille.
Parce que pour toi, être une petite fille, c'est dangereux.
Ouais. Je voyais le regard de certains adultes, ça me dégoûtait. Mmh. Donc, est-ce que je le voyais parce que j'avais déjà vécu des choses ou est-ce que j'avais une sensibilité accrue, j'en sais rien.
Parce que tu sentais déjà du désir de la part de certains adultes, des regards de...
Ouais, des trucs
dégueulasses que t'as envie de taper les gens. Ouais.
Et je me suis dit, mais en fait, je vais... Alors, il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que j'avais deux frères, que j'adorais m'amuser avec mes frères et qu'arrivé à l'école, on me disait, non, toi, t'es une petite fille, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ah non, 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 moi j'ai envie de jouer au foot. Donc, je vais plus mettre de petites chaussures, je vais mettre des baskets. Il y a eu tout ça en même temps.
Et comment ça se fait, justement, ton adolescence quand... et l'école et tout ça, quand on voit le monde de cette manière, mais pas juste où tu perds ta naïveté, où tu veux pas embrasser ta féminité, enfin, en tout cas, ce dont on parlait juste avant. Comment ça se passe pour toi?
Ben, je suis un garçon manqué. Ça se passe pas trop mal. Hein. En fait, on m'accepte comme je suis. Et puis, je vis bien aussi le fait d'être choisie dans les premières quand il faut faire des équipes de foot. Enfin, je sais pas, en fait, on me dit d'abord de faire du foot parce que les garçons voulaient pas que je fasse du foot. En fait, je vais en faire avec vous. Je force et j'y vais quand même. Et bah, j'entre dans une forme de rébellion déjà sur ces petites choses. Mais ça se passe pas mal.
Il y a des gens qui veulent sortir avec toi qui...
Non, alors, ce qui est drôle... Oh non, c'est pas drôle, non. Je suis persuadée que je suis moche.
Okay.
Parce que tous les garçons me disent que je suis moche.
Okay.
Et j'ai appris, il y a peut-être 2 ans, en recroisant un mec de l'endroit où j'ai grandi, que les garçons me disaient ça pour attirer mon attention.
Okay.
Sauf qu'en fait, ils m'ont tellement dit ça que j'y ai cru... que je me suis dit, ah ouais, t'es moche, bah tu vas faire d'autres choses, tu vas être intelligente, tu... Je me suis construite vraiment comme ça. Et après, quand on me disait que j'étais jolie, parce qu'il y a quand même des gens qui me le disaient, je me disais...
Tu le prenais pas bien.
Ouais, soit ils cherchent quelque chose, soit ils me mentent. Et dans tous les cas, j'ai commencé à questionner la beauté. Je me suis dit, en fait, c'est pas la beauté le problème, c'est le pouvoir qu'on lui donne. Et d'ailleurs, ça, enfin, même aujourd'hui, je me questionne encore là-dessus, tu vois. Quand on voit le mouvement body positive, on dit tout le monde est beau, tout le monde est beau, c'est pas vrai. Enfin, je sais que c'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai quand tu dis ça à quelqu'un et que la personne après se retrouve dans le monde réel. Bon courage, en fait. Le problème, c'est le pouvoir de la beauté.
Qu'est-ce que tu fais de ça, quoi?
Bah, et puis, quel pouvoir on donne à la beauté?
Oui, en plus, en vrai, ça pourrait être un sujet de apparentière, tu vois, vraiment. Et ça pourrait être un sujet de thèse, tu sais, genre,
qu'est-ce que la beauté?
Mais parce qu'en plus, c'est un truc qui est tellement subjectif, déjà. Je te trouve belle, je te trouve moche, enfin, d'où, en fait, parce qu'on a tous des goûts différents. Et puis, qu'est-ce que ça vient raconter? Qu'est-ce que ça veut dire être beau? Qu'est-ce que ça change? Enfin, tu vois, cette notion. Mais du coup, toi, comment ça se passe au lycée? Donc, les mecs, ils veulent pas sortir avec toi. Toi, tu t'en fous? Un peu des mecs ou des meufs, d'ailleurs. Comment tu te regardes dans le corps
Bah, je détache mes cheveux en seconde, pour la première fois. Et là, je me dis, vas-y, je vais essayer d'être féminine. Sauf que... bah, en fait, on va dire que j'ai été féminine peut-être de mes 15 ans, enfin 14-15 ans, à mes 19 ans. Sauf qu'en redevenant féminine, je retrouve ce regard dégueulasse des mecs. Et c'est pas que j'ai peur d'eux, j'ai peur de moi. Parce que par ailleurs, je suis ultra nerveuse. Et en fait, j'arrive pas à ne pas leur répondre. J'arrive pas à ne pas avoir envie de me battre. Mais j'ai conscience aussi que si je réponds, si je me bagarre, je peux me prendre un coup de couteau parce que c'est déjà arrivé à certaines de mes copines. J'ai une de mes copines, quand j'étais au lycée, qui a dit non à un homme, elle s'est pris un coup de couteau dans le ventre.
Oh wow.
Et j'ai ces exemples-là autour de moi, et je me dis... En fait, c'est bizarre, parce que à la fois, j'ai l'impression de les repousser, et à la fois, j'ai l'impression de les attirer, mais de manière salace.
Ouais.
Donc en fait, je me détache. Je me détache du physique.
Ouais.
Et il y a des garçons qui me plaisent. Enfin, c'est assez bizarre. En fait, j'y ai jamais repensé, donc c'est bizarre. J'arrive pas à te répondre.
Pour faire un parallèle, parce que ça n'a rien à voir, mais parce qu'on parle du regard et tout ça, moi, j'ai toujours eu un corps un peu plus enveloppé que d'autres. Je dis ça parce qu'avant, j'étais pas grosse, tu vois, j'étais juste une petite boulette. Enfin, voilà. Et je me souviens, au collège, je me souviens précisément, donc c'est pour ça que ça me parle, je faisais 88 kilos pour 1m70, un truc comme ça. Donc j'étais fat, mais pas... Et tous les mecs de mon collège, ils m'insultaient. Les grosses vaches, les Moby Dick, et sautent pas, et dans la piscine, machin, tout l'enfer. Je suis partie dans un centre pour maigrir, donc j'ai perdu 20 kilos en 8 mois. Quand je suis revenue dans le collège, tous ces mecs voulaient me pécho. Et en fait, ça m'a dégoûtée. Vraiment, ouais. En fait, je crois que j'ai pris conscience d'un truc où je me suis dit, attends, quoi? En perdant, en prenant 20 kilos, tu deviens une meuf qu'on va insulter, ou une meuf qu'on a envie de ken? Attends, c'est quoi ce truc-là? Et il y a eu un truc où j'étais genre, ah, berk! C'est vraiment, c'est d'un dégoût trop bizarre. Donc, ça me parle un peu, ce truc de d'un coup, tu deviens féminine, comme tu le dis, parce que même la notion de féminité, bon. Mais en tout cas, tu détaches tes cheveux et tout, et là, on te regarde différemment, où t'es un peu genre, waouh, ok. Genre, juste, je détache mes cheveux. Tu sais, je sais pas si c'est ça que t'avais ressenti, mais.
Ah bah, en fait, je me suis dit, mais en fait, on est des bouts de viande.
Ouais, bah ouais.
On est une enveloppe.
Ouais.
Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. On reste cette enveloppe. Et mais maintenant que tu m'en parles, je me rappelle avoir été tout le temps critiquée. Quand j'étais petite, j'étais super sportive, donc je faisais du foot tout le temps. J'étais fine et musclée. Et les premières personnes qui m'ont critiquée physiquement, c'est les mamans de mes copines. Elle est maigre, il faut qu'elle mange plus.
Ah ouais.
Là, je me disais, là, je me suis dit, ah, les adultes sont comme ça.
Ah ouais.
Et je me disais, mais comment elles peuvent me dire des trucs comme ça? Donc ça a commencé. J'avais pas de problème de comportement alimentaire. Je mangeais quand j'avais faim. Et là, j'ai commencé à développer des troubles parce que j'étais trop maigre. Et puis enfin, après,
on t'avait fait remarquer ça parce que
moi, je me sentais bien.
Oui, bah voilà,
mais du coup,
bah,
j'ai commencé à me regarder. Je me disais, je suis peut-être trop maigre.
Ouais.
Et puis après, en fait, tout ce qui a fait que je me suis pas sentie bien, c'est les gens. Hein.
Bah, de toute façon, c'est pas le sujet là de base, mais c'est toujours ça. C'est-à-dire que les complexes, les TCA, le regard, la confiance, l'estime, c'est que l'autre. Moi, quand j'étais ronde. En fait, je m'en rendais pas compte. C'est mes parents et c'est l'école et c'est les profs. J'ai fait, ah, d'accord, ok, je suis pas pareil que. D'accord, ok. Donc, je dois pas m'aimer. D'accord, ok. Non, mais c'est juste pour bien comprendre. Donc, évidemment que les complexes naissent des autres.
Ah,
mais bref. Pour revenir un peu au sujet, à 17 ans, t'as le bac en poche. Et alors là, jusqu'à tes 25 ans, ça va être un énorme bordel.
Ouais.
Entreprise de conscience globale, premier amour destructeur, crise existentielle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des moments qui t'ont marqué pendant ces 8 années-là?
Alors, 17 ans, j'ai mon bac à 17 ans parce que j'ai un an d'avance, parce que j'ai sauté une classe en maternelle. Alors,
C'est marrant qu'on puisse sauter une classe en maternelle.
Ouais, parce qu'en fait, j'étais extrêmement concentrée. Et j'étais dans un double niveau. Enfin, alors là, ça, c'est ma mère qui me le raconte parce que je m'en rappelle pas. Et apparemment, je faisais les devoirs de mon niveau et du niveau de dessus. Et il pouvait y avoir une tornade à côté de moi, je faisais.
T'étais concentrée.
Très concentrée.
Ok.
Mais dans ma scolarité, j'étais pas une bonne élève parce qu'en fait, je supportais pas l'école. Je supportais pas l'école parce que je supportais pas qu'on me force à apprendre des choses. Et autant, en plus, j'étais en décalage parce que. J'arrivais à comprendre rapidement des trucs complexes sans même savoir comment je les avais compris et d'autres choses basiques, je comprenais rien. Donc j'étais pas bonne élève et donc à 17 ans et parce que j'étais rebelle, enfin j'ai arrêté. J'ai tout arrêté et a suivi une période très compliquée.
T'as arrêté l'école?
J'ai arrêté sans arrêter, c'est-à-dire que je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je me suis inscrite par correspondance en LEA, langues étrangères appliquées, et à côté de ça, j'ai bossé. Donc, j'avais 3 boulots. Tout ça pour me payer un appart à Paris, parce que je fantasmais Paris en tant que banlieusarde qui prenait le RER. Et c'était absolument atroce. Tous les gens qui prennent le RER le savent. Je voulais un appart à Paris. Donc, je travaillais le matin dans une école d'anglais, Wall Street Institute, et l'après-midi chez Starbucks. J'ai fait l'ouverture des Starbucks en France en 2005. C'était cool. Hein. Et je faisais de l'événementiel. Donc, j'avais une petite vie. J'avais réussi à trouver ma petite vie. Puis bon, je faisais mes devoirs par correspondance en sachant après vers quel cursus me rediriger. Et là, accident de vie. Je rencontre un mec qui paraît parfait. Vraiment, grand amour. Absolument génial pendant 9 mois. Mais vraiment génial, tu vois. Après, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont passées dont je n'avais pas connaissance ni conscience avant. Sauf que, au bout de 9 mois, il vit chez moi, à Paris, dans le 17e. Et un matin, 6h du mat, explosion. Je vois plein de mecs qui rentrent chez moi. Et je comprends pas ce qui se passe. Et on le fout par terre. et on fout ma coloc par terre. Et ils sont violents, ces mecs-là. Donc je me dis, en fait, c'est un règlement de compte, ils vont le tuer. Et là, je crois que je vais mourir. Sauf que je réalise que c'est la police. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent chez moi, en fait? Et la police est venue le chercher. Et donc les flics commencent à m'expliquer que mon mec est un trafiquant de drogue. Je savais pas. Alors oui, je voyais des barrettes de shit, comme je voyais des barrettes de shit partout à cette époque.
Ouais.
Les barrettes, c'était un truc banal, en fait. Mais j'avais aucune conscience de ce qu'il faisait. Et là, je me dis, mais en fait, pourquoi chez moi? Pourquoi vous l'attrapez chez moi? Dans sa cité, c'était plus compliqué. Je dis, donc vous savez que j'ai rien fait, parce que j'étais sur écoute depuis 3 mois. Vous l'attrapez chez moi, vous pétez ma porte. Ma coloc s'est enfuie, j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle.
Ah ouais?
Mais jamais. Jamais. Elle sortait d'un quartier de Perpignan qui craignait. Je lui avais dit, non, mais t'inquiète, le 17e, Paris. Une semaine après, elle se prend ça. Et du coup, j'apprends que c'est la police qui vient le chercher. Alors moi, je pète un plomb parce que j'ai rien fait. Vous le savez. C'est ça, la justice, en fait. Et il se barre avec lui. Il me laisse avec mon appart sans porte. Enfin, la porte avait été défoncée à coups de bélier, tu vois.
Putain.
Bref, je trouve un avocat, tout ça. On me dit, ils n'ont pas trop de preuves, il va sortir. Alors moi, je voulais juste qu'il sorte, qu'il rembourse ma porte. Parce que moi, je n'avais pas du tout bénéficié de quoi que ce soit. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais eu des problèmes. Je voulais en fait qu'il arrange ce qu'il avait bousillé dans ma vie. Sauf qu'en fait, il prend 3 ans de prison.
Ah oui.
Et moi, 19 ans, loyale, amoureuse, je vois que tous ses potes le laissent tomber. Je suis la seule à faire un permis de visite. Pendant 2 ans, je vais 3 fois par semaine au parloir à Fleury-Mérogis.
Ah ouais.
Sauf que je retourne à Cergy parce que je perds mon appart, évidemment. C'est 7 heures dans la journée pour un parloir de 30 minutes. Parce que je fais Cergy... D'enfer, la prison en bus. Pour 30 minutes de parloir, c'est 3 heures dans la prison, plus le retour après, quand t'as la chance d'avoir un bus. Et donc, je mets ma vie entre parenthèses, j'arrête tout, j'arrête mes études.
Mais tu fais ça par amour ou par pitié?
En fait, je vais te dire, je fais ça par intuition.
Okay.
Je sens que si je suis pas là, je vais avoir des problèmes. Je sens aussi que si je suis pas là pour lui, en fait, je me sens pas de le laisser tomber. Je suis aussi amoureuse et je sens qu'il faut que je le fasse. Pourquoi, je sais pas trop, mais je sens qu'il faut que je le fasse. J'aurais rien à me reprocher, j'aurais été loyale. Et donc du coup, les 3 ans passent, moi j'arrête tout. Et pour pouvoir lui envoyer des mandats et vivoter, je fais de l'événementiel, parce que c'est le seul truc qui me permet de caler des missions d'événementiel entre les parloirs. Donc je passe de réception dans des hôtels 4 étoiles à Fleury-Mérogis. Et j'oscille entre ces villas et ça dure 2 ans. Et le souci, c'est que il commence à changer. Et je le sens même quand il est en prison, il commence à changer, il commence à être nerveux. Il est bizarre et en fait, il sort, il me fait la misère.
C'est-à-dire ?
Physiquement, moralement, il est violent en fait. Il est violent, mais...
Mais pour quelle alors je dis raison, c'est pas le mot, parce qu'il n'y a aucune raison
d'être
violent, mais tu sais pas ?
Non, je pense que c'est en ça que la prison... C'est quoi? Ça sert à enfermer? Ça sert à punir? J'ai beaucoup d'exemples de gens qui ont été vraiment abîmés davantage par la prison, tu vois. Et je sais pas si ça l'a traumatisé, mais il est devenu une autre personne. Et lui s'est remis à me dire, t'es moche, mais c'était pas ça, c'était t'es dégueulasse. Le mot c'était t'es dégueulasse, tu me touches pas, mais par contre si j'ai envie de te baiser, je vais te forcer. Et moi le souci c'est que là quand il sort j'ai 20 ans, 21 ans, et moi, je reste accrochée à ce qu'il était avant. Et c'est ça le problème, en fait, parce que il a ses accès de colère et il voit que je suis pas bien et il pleure. Il me dit, je suis un ouf, pourquoi je te fais ça?
Ah, après te faire...
Ouais.
Ok.
Et il continue à me dire, si t'étais pas avec moi, tu serais avec personne parce que t'es dégueulasse, parce que... Et moi, je sais pas combien de temps je suis restée dans ce truc. Je pense que ça a duré 9 mois, 1 an. Avant que je me barre, parce que j'attendais qu'il redevienne comme il était, tu vois.
Et donc pendant ces 9 mois, tu as la sensation d'être encore amoureuse?
Oh là là, non.
Ou alors t'es dans ce souvenir du passé, de je veux qu'il revienne comme avant?
En fait, je suis dans l'espérance qu'il revienne, mais je sais que je me sens super mal. Sauf qu'il me coupe de tout le monde, il invente même des histoires sur mes copines, comme quoi certaines de mes copines l'auraient dragué et tout. Il me coupe de tout le monde, sauf de 2 potes. Et ces 2 potes, je les remercierai jamais assez. 2 potes de Cergy qui font tout pour me sortir de là, des mecs. Et un jour, je me barre. Je m'enfuis, en fait. Je m'enfuis et elle va pas me laisser tranquille tout de suite. Mais j'étais sous une espèce d'emprise, un truc super bizarre, horrible. Et on dit souvent, oui, mais pourquoi elle est pas partie? Ah, c'est compliqué. Quand t'es dedans, c'est compliqué.
Ouais.
C'est, tu sais que t'es pas bien, mais c'est comme si t'avais, en fait, de l'espoir en la personne.
Bien sûr.
Sauf que bah, finalement, ça ne change jamais.
Et puis t'as l'impression, j'imagine, pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, ce truc de, en effet, part. Ah, merci de me l'avoir dit, j'y avais pas pensé, tu sais, c'est évident. Mais je pense qu'il doit y a peut-être avoir un truc, avec toi, je sais pas, mais ce truc de, je vais l'aider, je vais le sauver. Je vais faire en sorte
ouais,
que...
Aussi, ouais.
Ouais.
Ouais, aussi. Aussi parce que j'ai le défaut de ma qualité, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre un peu tout le monde. Donc j'arrive à comprendre comment il en est arrivé là. Et du coup, j'ai un petit peu ce syndrome de l'infirmière. Et je pense que j'ai plus de bande passante. Je vis tellement de trucs durs que j'arrive même plus à réfléchir. Et puisqu'en plus, il me retourne le cerveau, assez complexe. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est que je me suis pas rendu compte tout de suite de ce que j'avais vécu. Donc, tu vois, en sortant de ça, je me dis, vas-y, j'ai plus d'appart, j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je rassemble un peu tout ce que j'aime. J'aime bien voyager, j'adore les avions, parce que je suis passionnée d'avions depuis que je suis petite, de ciel, d'espace. Je vais être hôtesse de l'air. Et donc, du coup, j'ai de la chance, parce que je fais ma formation et je suis tout de suite embauchée dans une compagnie, là où il y a plein de gens qui galèrent pendant des années.
T'as quel âge, là?
Là, j'ai 21 ans. Et donc, je suis embauchée chez EasyJet. Donc, ouais. Au début, je me dis, ah, ça va être trop nul, parce que la renommée à l'époque, c'était en 2008. C'était.
C'était pas ouf, hein.
C'était pas ouf du tout. Et en fait, mais génial.
Okay.
Bonne ambiance, avion bien entretenu, tout neuf, bonne formation. Ça m'a sauvé la vie. Vraiment, ça m'a sauvé la vie parce que c'est la période où j'ai commencé à comprendre ce qui m'est arrivé. Parce que, à l'époque, pour les jeunes, les plus jeunes qui nous écoutent, moi, j'étais persuadée que puisque c'était mon mec, je lui devais un peu ça. Et c'est ce qu'il me disait aussi. Mmh. Il me disait, mais évidemment, j'ai le droit de coucher avec toi. T'es ma copine. Moi, je me disais, ah ouais. Tu sais, l'histoire de devoir conjugal, il est resté dans nos têtes pendant longtemps, hein, nous, les femmes. Et en fait, pendant ces 4 années chez EasyJet, je commence à avoir des flashbacks.
Ah, t'as resté 4 ans?
Ouais, 4 ans.
Okay.
Et tu vois, j'avais un copain à l'époque, quand parfois il me touchait la main, je sursautais. Il me disait, mais pourquoi tu réagis comme ça? Il t'est arrivé quelque chose? Moi, je lui disais, non, je sais pas. Et puis je commence à lui raconter, il me dit, mais tu sais que c'est pas normal en fait, que ça c'est des viols. Moi je dis, mais non. Puis après il me dit, mais en plus il y a même pas de zone grise avec toi, il te tient les bras, tu pleures et tu comprends pas que c'est un viol. Et là je commençais à capter, et là, oh, dur, très dur. Parce que là je me sens sale, je me dis, mais comment j'ai pu tomber là-dedans en fait, moi qui ai du caractère, moi qui fait la guerrière, qui s'est protégée comme ça.
Tu te sens plus coupable, toi, que tu t'en veux plus à toi qu'à lui?
Je sais pas, mais je me sens pas bien.
Ouais.
Je me sens pas bien, et c'est ce qui est drôle, mais ça, il faut que les gens le retiennent. C'est la période où, chez EasyJet, on me voit comme la fille hyper joviale, parce que je fais des blagues tout le temps, parce que je suis super sympa avec les passagers, je fais des annonces super jolies, et on m'a même offert à un moment le bouquin Monsieur Madame, Madame bout en train. Et moi, je sais, au fond, que je suis en dépression. Enfin, c'est pas que je suis en dépression, mais...
C'est très mal, quoi.
Je suis pas bien. Et il y a 2-3 collègues qui me captent. Et ces gens, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont capté que j'allais pas bien, en fait. Mais les autres comprennent pas. Donc, ça veut dire que je suis en découché. Donc, les découchés, c'est quand tu dors à l'extérieur, dans une autre ville. Et moi, je fais ma journée et je m'enferme dans ma chambre. Et mes collègues comprennent pas. Pourquoi tu sors pas? Pourquoi tu viens pas boire des verres? Mais en fait, j'arrive pas à faire semblant autant de temps. Je suis obligée de me retrouver toute seule. Et je me retrouve pas toute seule pour aller mal ou pour pleurer. J'arrive plus à faire semblant, en fait. J'arrive plus à tenir ce rôle de la fille sympa. Donc, je passe beaucoup, beaucoup de temps seule. Et puis, à un moment, à 25 ans, je complexe. Je me dis, ah, mais j'aurais aimé faire des études. Ce mec, je m'en suis bien sortie, tu vois, c'est cool. Mais c'est pas ça que je voulais, tu vois. Et donc, du coup, je me dis, je vais postuler à la Sorbonne, au cursus communication, sciences du langage, et puis je vais tout recommencer. Et donc, du coup, je suis reçue, je suis admise, et c'est trop bien. Mais après, j'hésite, parce que ça voudrait dire que je retourne chez mes parents, que je reprends la fac à zéro à 25 ans. Et en fait, la vie fait que, y a un signe, je me déchire un tympan. Et donc, je peux plus voler. Donc, je suis obligée de changer de métier. Je dis, vas-y, go. Donc je reprends à zéro. 25 ans, licence 1 à la Sorbonne. Je fais ça pendant 3 ans tout en travaillant. Je retravaille derrière. Et en 2019, à 29 ans, je reprends encore une fois mes études pour faire un master développement durable. Donc j'arrive à faire le bac plus 5 que je voulais de base. Mais voilà, du coup, je suis un petit peu plus loin que les 8 ans dont tu m'avais parlé. Mais voilà, il se passe à peu près ça pendant tout ce temps.
On va marquer une petite parenthèse qui s'appelle « Donne ta langue aux cats », parce que je m'appelle Juliette Katz.
Ouais. Et d'ailleurs, à cause de ça, j'arrive plus à prononcer le mot podcast.
Je sais, c'est dur. Hein. Même moi, hein, quand j'écoute des podcasts, je dis podcast. Je suis obligée de le cast, parce que sinon je dis podcast. Alors devant toi, il y a des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Mmh. Il y a le dégoût, la tristesse, la colère, la peur et la joie. Je t'invite à choisir une émotion et ensuite tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard. Donc tu prends celui qui te parle le plus. Et avant de la regarder, je veux bien que tu me dises pourquoi tu as pris la colère plutôt qu'une autre émotion.
La colère, c'est mon moteur en fait. Je pense que la colère me permet de conserver un truc qui est indispensable dans la vie, c'est ma vigilance. C'est pour ça que je pardonne pas, par exemple. Je pardonne jamais. Je peux oublier, je peux totalement côtoyer quelqu'un qui m'a fait quelque chose que j'ai pas pardonné, mais je pardonne pas. Parce que ça, c'est comme une trace de ce qui a été fait. Voilà.
Ok, maintenant tu peux regarder. Et tu peux nous décrire ce qu'il y a.
Jaloux.
Ouais.
Jaloux, jalouse.
Et c'est quoi le dessin?
C'est un petit bonhomme qui a dans la main une petite pomme et qui regarde avec envie une grosse pomme dans un arbre.
Ok. Et donc, il y a écrit jaloux.
Jaloux. Jalouse, jaloux.
Et est-ce que ça te parle, ça? Pas forcément avec le sujet dont on est en train de parler.
Non, mais je réfléchis.
Ça peut ne pas te parler. Hein.
Oh, si. Je crois que la jalousie, je sais pas pourquoi, mais ça m'est assez régulièrement arrivé que des gens soient jaloux de moi. Mmh. Et j'y vois une forme de reconnaissance, une reconnaissance mal exprimée. Moi aussi, ça m'arrive d'être jalouse, enfin de moins en moins.
T'es jalouse ou envieuse?
Je sais pas, justement, je suis en train d'essayer de réfléchir. Je crois que je le suis plus, hein. Ça m'arrive plus. Je sais pas, c'est un peu complexe là, j'arrive pas à répondre.
La jalousie, en tout cas, c'est un truc qui t'appartient pas, enfin,
non.
Ça t'appartient, mais en même temps, c'est pas un sentiment qui est...
Je vais aller jusqu'à dire qu'il faudrait que le mot n'existe même pas. Pour moi, c'est parasite. C'est quelque chose de parasite. Tu sais, alors j'ai fait une double licence, dont sciences du langage, et on parle de l'importance du vocabulaire dans ta perception du monde. Et par exemple, un Inuit ne verra pas le blanc de la même manière juste par rapport à la langue. Parce que chez eux, ils ont 10 mots pour dire le mot blanc. Donc toi, tu vas voir le blanc d'une même couleur juste parce que t'as qu'un mot. Pour blanc. Mmh. Alors non, il y a écru, etc., etc. Mais en fait, le langage façonne la perception du monde. Donc je me dis, si ce mot n'existait pas, peut-être qu'en fait, ça n'existerait pas. J'en sais rien. Enfin, c'est pour ça que je vais jusque-là quand c'est un sentiment qui sert à rien.
Ok.
Voilà.
Très bien. Je suis assez d'accord.
Bon, cool.
Non, moi, je pense qu'on peut être... On peut envier des choses des autres. Et je trouve que là, ça peut être assez bénéfique de dire, putain, elle est comme ça. Ah ouais, non, mais ça m'inspire de ouf. Moi aussi, j'ai envie d'être ça. Mais d'être jaloux, c'est pas tout à fait... Je trouve qu'il y a une mini-différence.
Il y a une petite connotation négative et presque... pas vicieuse, mais...
Tu sais, dans le couple, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, par exemple, tu vois.
Ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont jaloux parce qu'ils ont peur d'être moins aimés aussi. Mm. Donc il y a une jalousie qui naît. Mais ouais, je suis assez d'accord, c'est un sentiment qui est...
Disons que quand j'ai été envieuse, ça ne m'a pas créé d'émotions négatives, mais quand j'ai été jalouse, oui.
Ouais, ouais.
Donc c'est peut-être ça la nuance, j'en sais rien.
Ouais. Donc tu vas faire à la Sorbonne, c'est ça? Moi, en fait, je voulais parler d'un truc, c'est ce truc des lobbies, parce qu'on en parlait au tout début, avec ton compte Insta et tout, mais je sors un peu de... J'allais dire l'histoire de ta vie, de ton parcours, quoi. Mais à quel moment, peut-être que c'est en lien, à quel moment tu prends conscience de la puissance des lobbies?
En fait,
à quel moment ça te parle où tu dis « Oh, what ?» Tu vois?
En fait, en parallèle de l'histoire que je t'ai déjà racontée, quand je deviens hôtesse de l'air et que j'essaye de me remettre de ce qui m'est arrivé, j'arrête la pilule contraceptive parce que je peux plus la prendre à heure fixe parce que je suis hôtesse de l'air.
Ouais.
Et là, je commence à avoir de l'acné. Alors déjà, je me sentais pas très bien dans ma peau. Je commence à avoir de l'acné, mais partout sur le visage. Je perds des touffes de cheveux. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'air de l'avion? Est-ce que je... Mais jamais de ma vie, je me dis, c'est ma pilule. Est-ce que je mange mal, machin? Et je la reprends. Ça va mieux. Je me dis, oh, il y a un souci avec la pilule. Je la réarrête. J'ai de nouveau de l'acné. Je repère mes cheveux. Et là, je commence à en parler à des médecins. Je dis, mais il y a quelque chose avec la pilule contraceptive?
Non. Elle s'appelait comment?
Diane, 35. Diane 35, la fameuse. Et les médecins me disent, non, c'est anodin, c'est pas possible. Alors moi, je... Ok, bon. Et je réessaye encore de l'arrêter. J'ai de nouveau plein d'acné. Je dis, mais ils se foutent de moi, c'est pas possible. Bien sûr que c'est quelque chose dans le corps, parce que j'ai un espèce de manque, en fait, quand je l'arrête. Et donc, du coup, puisque les médecins me disent que je suis folle, clairement, parce que ça, c'est en 2009, ben, je me renseigne et je regarde des études et qui sont essentiellement anglophones à ce moment-là. Et je me rends compte qu'en fait, non, non, la pilule, c'est pas du tout anodin et que possiblement, les soucis de santé que j'ai et que j'ai eu depuis mes 15 ans, les migraines, etc., etc., c'est peut-être dû à ça. Et en fait, je vais jusqu'à faire un sevrage de ma pilule comme si c'était une drogue. Je coupe mes comprimés, je les mets dans des gélules végétales et tout, et je me sèvre. Donc, c'est-à-dire, sur 6 mois, je prends 3/4 de pilule pendant 2 mois.
Toi qui invente ton dosage.
Oui, j'invente toute seule parce que les médecins me disent que je me prends la tête pour rien.
Ouais.
Si jamais je leur parle de sevrage, ils me disent que je suis complètement folle.
Ouais.
Sauf que, en parallèle de tout ça, j'étudie les hormones, j'étudie tout, et je tombe dans le lobby pharmaceutique. Et après, pour aller mieux, j'essaie de manger mieux, je tombe dans le lobby agroalimentaire. Et là, quand tu mets le doigt dedans...
Quand tu dis lobby, c'est juste, je pense qu'il y a besoin d'éclaircir ce mot. Parce que c'est pas tout à fait clair pour pas mal de gens, je pense. Y compris pour moi.
Alors, le lobby pharmaceutique...
Enfin, le lobby tout court.
Ah, le lobby.
Parce que quand tu dis le lobby de l'alimentaire, le lobby de... Lobby, c'est quoi? On parle de société, on parle de...
Les lobbies sont faits de lobbyistes. Les lobbyistes sont des humains qui font en sorte de faire pencher les lois, notamment, en leur faveur. Le mot lobby vient de ces réunions qui se faisaient dans les lobbies des hôtels, un peu cachées.
Ah,
voilà, ça vient de là, en fait, le lobby de l'hôtel. Oui, ça vient totalement de là. Et donc, c'est des groupes qui ont des intérêts privés, qui vont essayer de forcer les politiques à aller dans leur sens. Et donc, du coup, c'est pour ça que à Bruxelles, il y a plein de lobbyistes qui essayent d'adoucir les lois en matière de réglementation pour les pesticides, enfin voilà. Donc en fait, c'est un groupe de pression qui agit sur la réglementation qui va permettre, donc par exemple, à l'industrie pharmaceutique de s'implanter de telle manière à faire de l'argent. Donc t'as la médecine qui est géniale, mais t'as aussi tout ce qui est la finance autour de la médecine.
Oui.
Et là, c'est moins génial parce que les intérêts priment sur la santé.
Oui, c'est ça. Tu te rends compte petit à petit qu'en fait, il y a tout un pan. Enfin, je ne sais pas quel mot je pourrais employer. Des lobbies, en fait.
Je me rends compte, en fait, des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, c'est, par exemple, un médecin qui souscrit au serment d'Hippocrate, mais qui, par ailleurs, reçoit des visiteurs médicaux. On appelle ça les visiteurs médicaux. Donc, c'est les commerciaux des laboratoires.
Alors ça, j'ai vu ça, des médecins.
Pour leur vendre, pour leur faire vendre ou leur faire donner
des voilà, ça m'a fait penser à ça parce que je suis allée voir un médecin il y a un petit moment maintenant. Et il a sorti, elle d'ailleurs, a sorti de son tiroir une fiche avec des médicaments en me disant, voilà, vous pouvez commander ça. Vous avez 10%.
Parce que c'est un conflit d'intérêt. En fait, un conflit d'intérêt, c'est...
Non, mais c'est qu'ils sont rachetés, enfin, je sais pas comment...
Bah, en fait, ça biaise
ton avis. Oui, c'est ça, ouais.
Et nous, créateurs de contenu, on a des conflits d'intérêt. Par exemple, on parle parfois de certains produits parce qu'on nous les a offerts et peut-être qu'on les aurait jamais achetés. En fait, à partir du moment où...
Moi, j'ai très peu fait ça, moi.
Non, mais alors toi, je sais que t'es...
Enfin, je l'ai fait, ça fait 8 ans, mais...
Après, on n'est pas à l'abri de faire des bêtises, mais... En fait, un conflit d'intérêts,
c'est vendre un truc auquel tu crois pas.
Mais c'est quelque chose qui biaise. Pas forcément
auquel tu crois pas. Mais dans ce cas-là, on parle de la publicité, de tout, en fait. De tout. De la bouffe, de manger 5 fruits et légumes par jour, manger pas trop sucré, salé, alors que tu vas au supermarché, t'as que des trucs sucrés qui... Enfin, par exemple, tu vois, c'est un détail tout con, c'est qu'on va dire, par exemple, aux citoyens, faites attention parce que vous êtes gros, il faut perdre du poids. Enfin, moi, c'est un sujet qui me touche forcément.
Non, mais
en même temps, quand tu vas faire tes courses, c'est super dur parce que t'as plein de trucs sucrés qui coûtent pas cher ouais. et qu'on te met sous le nez. Et même à la pharmacie, tu vois, on te vend des pilules minceurs. Je suis pas tombée là-dedans, hein. Mais on te vend plein de trucs, les comme j'aime, les conneries de merde de mon cul, là. Où en fait, tu crois que tu vas être mieux avec ça. Mais en fait, ça ne fait que. Enfin, je sais pas si c'est ça au final, hein. Bah. Mais d'être dans un truc, tu sais, de. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais d'être dans une croyance perpétuelle, en fait. Que t'as besoin de l'autre.
Ouais.
Peut-être c'est pas ça.
De quoi? Le conflit d'intérêt?
Ouais.
Le conflit d'intérêt, c'est juste que tu es médecin, tu es censé soigner, mais t'as un labo qui t'offre des vacances et du coup, tu vas plutôt donner à ton patient les médicaments qui viennent de ce laboratoire. Chose que tu n'aurais pas forcément faite si tu n'avais pas eu ce pot de vin.
Ouais.
Après, je précise, parce que c'est important, il y a plein de bons médecins. J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences, mais ça ne fait pas de ça une généralité.
Ah ouais, c'est clair.
Je vais rajouter un truc très important, j'aurais dû le dire dès le début. On enregistre en mars 2024. Et tout ce que je dis, je ne veux pas que ce soit pris comme des vérités, mais comme de la matière à penser. Pourquoi ? Parce que ça fait un moment que je suis sur les réseaux et parfois je regarde des trucs que j'ai fait en 2020, je ne suis plus du tout d'accord avec moi-même. Et je veux que les gens vraiment se disent que ce que je dis, c'est des réflexions là. Tout ce que je dis, c'est des réflexions qui bougent dans ma tête continuellement, donc ne prenez pas ça comme des vérités. Voilà. Je préfère donner ce contexte, parce que si les gens entendent ça dans 2 ans...
Ouais, moi, tu sais, j'ai fait... C'est un autre parallèle, mais parce qu'on fait plus ou moins le même métier. Et je fais des vidéos qui s'appellent DMT, ça s'appelle Dans ma tête, où en gros, je parle de pensée. Et parfois, je vais dire... En fait, j'ai dit un truc il y a 2 mois, je suis pas du tout en lien.
Bah ouais,
mais c'est juste du partage d'expérience. C'est pour ça, en fait, ce que tu fais, c'est que t'apportes de la réflexion et du questionnement. Ok.
Podcast.
Tu parlais de la pilule où tu t'es intéressée au labo pharmaceutique, puis après à l'alimentation. Et après ?
Je suis tombée dans l'écologie.
Dans l'écologie,
parce que j'ai compris ce qu'était... Enfin, je le savais déjà plus ou moins, mais les pesticides, mais surtout à quel point on laisse pour du profit à court terme des gens, parce que ce sont des gens... on dit oui, les multinationales. Non, ce sont des gens derrière qui bousillent la planète à court terme pour de l'argent. Et là, j'ai pété un câble, en fait. Et donc, je suis tombée dans l'activisme.
Quand t'as réalisé, genre, ah putain, en fait, c'est des gens qui niquent la planète et moi, je suis pas du tout OK. Je vais me battre et mener des actions de front et...
Je me suis dit, il faut que j'agisse. Donc, première chose, j'ai repris une deuxième fois mes études et je me suis dit, il faut que j'ai un diplôme parce que je suis une femme... On ne me prend jamais au sérieux. Je suis jeune, on ne me prend jamais au sérieux. Donc, je vais aller à Dauphine, la meilleure université, enfin, en tout cas, renommée. Je vais faire mon master. Et à partir de là, je pourrais agir. Sauf que quand tu as une licence sciences du langage, communication, un master développement durable, tu fais du greenwashing. En fait, tu te destines à faire du greenwashing. Et moi, il est hors de question que je fasse ça. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire un stage... Pardon, mais tout péter juste pour faire un rapport, un mémoire dessus. Moi, je disais toujours à mes camarades de classe, ils ne comprenaient pas, je ne suis pas là pour le diplôme, je suis là pour la connaissance. Et je m'en fous de rendre un mémoire et d'avoir une bonne note, je veux faire des choses utiles. Donc du coup, j'ai créé Dear Lobbies à ce moment-là. Je me suis dit, ça va être l'objet d'étude de mon mémoire. Spoiler, je n'ai toujours pas fini d'écrire. Parce qu'en fait... ouais, spoiler, je l'ai déjà dit. Parce qu'en fait, tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Donc je suis, j'ai tombée dans l'activisme en 2017-18, un truc comme ça.
Ouais.
Et j'en suis revenue parce que ça marche pas.
Comment ça ?
La chance que j'ai, c'est d'avoir des proches de plein d'horizons différents. Et j'ai toujours un pied en banlieue. Et en fait, quand je suis partie dans mon truc d'activisme, j'étais un peu en roue libre, j'étais vraiment tout ce que je déteste maintenant, c'est-à-dire que je faisais partie de la police de la pureté militante, j'étais insupportable. Mais je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, je pensais qu'il fallait choquer les gens, il fallait que je les monte du doigt, il fallait que je leur dise « mais oui, mais t'as des incohérences ». Et en fait, je me suis juste rendu compte que ça marchait pas, et notamment grâce à ces amis-là, qui ont pas du tout été de main morte. Je pense à vous, Yasmine et Alexis, qui m'ont « mais... » Ah, mais ils m'ont mis pas des coups de poing, mais ils m'ont bien secoué en me disant « Mais tout ce que tu fais, ça sert à rien, parce que vous passez pour des cons, parce que les activistes, les écolos, vous passez pour ci, pour ça. » Et puis, j'ai par ailleurs aussi des amis de la bourgeoisie, des amis... Enfin, voilà, je connais des gens d'un peu partout et j'ai entendu, en fait, ce qu'ils avaient à dire de ce qu'on faisait, de nos actions. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et du coup, Je suis sortie de l'activisme.
Mais c'est quoi, pardon, je me permets de te couper, c'est quoi la différence selon toi entre activiste et militante?
L'activisme, c'est dans l'action.
Ouais.
Tu peux être militant. Enfin, pour moi, tu commences à être dans l'activisme quand tu vas sur le terrain.
Ok.
Pour moi, après, peut-être que je me trompe, il faudrait que j'aille voir la définition. Mais ça marche pas. Ça marche
pas. Mais pourquoi ça marche pas? C'est-à-dire que tout ce que tu as essayé de mener, de faire comme action.
En fait, quand tu t'intéresses au cerveau, quand tu brusques les gens, ça marche pas. Je donne un exemple. Pour moi, le meilleur outil militant, c'est un outil non militant. C'est le témoignage. Pour moi, un témoignage non militant, donc quelqu'un qui est dans une situation donnée, qui raconte juste sa vie et comment il la vit à quelqu'un d'autre qui l'interviewe sans que ce soit dans une perspective militante, ça va beaucoup mieux marcher dans la tête des gens qui doivent être convaincus qu'une action coup de poing. Parce que d'un coup, il va juste comprendre la vie de la personne et il va se dire « Ah, elle vit tout ça !»
Donc tu penses que les gens qui manifestent, les fémènes, par exemple, je sais pas, je pense à elles, tout ça, ça sert à rien?
Non, en fait, je pense qu'on est dans une... Il faut s'inscrire dans une complémentarité d'action. En fait, ça marche sur un certain public et c'est important, tu vois, manifester, pour moi, ça sert à rien parce qu'en fait, si ça servait, ce serait interdit. Mais moi, j'ai du mal à faire des choses qui me paraissent pas fonctionner.
Et c'est quoi les leçons que t'as tirées justement de cette désillusion, de ces trucs un peu...
Alors les désillusions, elles sont par rapport à la finalité des actions, c'est-à-dire qu'il y a pas, il se passe pas grand-chose au final, mais il y a aussi en interne des mécanismes en œuvre qui sont hyper problématiques d'après moi. La pureté militante.
La pureté militante.
Pureté militante, c'est-à-dire que dès lors que t'es engagé, tu dois être parfait. Je suis sûre que t'as déjà vécu ça, si tu parles d'un sujet. On va te dire « Oui, mais par ailleurs, tu fais ci, mais par ailleurs, tu fais ça. »
Oui.
Sauf qu'en fait, cette pureté militante, elle n'entraîne pas l'amélioration des gens. Elle va entraîner une pression qui, elle-même, va entraîner la création de masques sociaux.
Non, mais en fait, tu vois, c'est là où c'est très complexe. Je vois ce que tu veux dire.
Ouais.
Et en même temps, je trouve que c'est tellement important de parler.
Mais
c'est
oui.
tellement important de se dire « Je suis en colère. » Mais en même temps, on te demande de fermer ta gueule tout le temps. Donc tu vois, le paradoxe, il est quand même pas évident, je trouve.
En fait, on te dit de ne pas parler si t'es pas concerné, mais de parler quand même.
Ouais.
En fait, il y a plein de contradictions de partout dans ce milieu, et c'est insupportable. Et du coup, moi, c'est ça, c'est une des choses qui faisait que ça me rendait dingue. La pureté militante, ça crée l'immobilisme, et un truc encore plus grave, les masques sociaux, c'est-à-dire des gens qui font semblant d'être ce qu'ils sont pas.
Ah oui.
Il y en a partout, dans ce milieu-là.
Ah oui.
Et puis c'est aussi un milieu dans lequel t'arrives pas par hasard. Tu deviens militant parce que t'as...
Quand tu parles dans le milieu, tu parles, excuse-moi, du militantisme.
Militantisme.
Ouais, ok.
Militantisme slash activisme. Généralement, quand t'arrives là-dedans, c'est que t'as eu un accident de vie ou t'as été malade ou... En fait, il y a un truc qui a fait que t'as eu une conscience qui t'a amené à avoir conscience encore d'autres choses. Du coup, après, tu t'inscris dans une intersectionnalité.
Ouais, l'intersectionnalité.
Et sauf que, c'est un milieu qui est plein de gens qui ont vécu des choses... qui étaient durs, qui sont pour beaucoup pas encore soignés.
Ouais.
Et du coup, il y a plein de prédateurs dans ce milieu aussi.
Ah.
Des gens qui savent mettre le bon masque social pour se faire aimer et qui après font des ravages. Donc des mecs agresseurs, des gens qui ont un ego surdimensionné. Du coup, je me sentais plus tellement bien là-dedans et j'ai le truc qui a fini par me sortir totalement, c'est quand on m'a dit « tu dois penser comme si, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Et là, j'ai pété un plomb, en fait. À partir de 2020...
Il y a un endoctrinement, quoi.
Oh là là, à partir de 2020, dès que je parlais, on me disait « Mais tu dois écrire ça en écriture inclusive, comme ci, comme ça, et tu dois pas dire ça, et tu dois arrêter de parler de ça. » J'ai dit « Mais vous vous prenez pour qui, en fait ?» Enfin, vous venez me manquer de respect pour demander du respect, ça marche pas comme ça. Si tu me manques de respect, je vais pas te respecter. Et il y a eu des grosses vagues de harcèlement envers certaines personnes ces dernières années, auquel on m'a demandé de participer, et j'ai refusé, parce que moi, je ne harcèle pas les gens. Et là, du coup, on m'a dit que je faisais preuve d'une violence inouïe à ne pas vouloir harceler quelqu'un. Donc, vous êtes un milieu qui se dit contre le harcèlement, sauf quand c'est justifié. Il y a des harcèlements légitimes? Non. Donc là, je dis, laissez-moi, en fait, je me barre. Je veux plus être dans ce milieu-là, parce que... Alors, il y a des choses extraordinaires dedans, mais il y a aussi tout ça. Et ça, personne n'en parle, en fait.
C'est la première fois que j'entends t'en parler, en tout cas.
Mais personne n'en parle. Et je sais qu'en parlant de ça, je vais me reprendre encore des vagues de haine, mais tant pis. Tant pis. C'est Il y a du totalitarisme dans ce milieu.
Dans le milieu de l'activisme.
Ouais.
Quel que soit le... Mais l'activisme écolo ?
Bah en fait, bah maintenant, c'est un peu une lutte fourre-tout. Hein. Toutes les luttes sont dedans. Je dirais même que c'est la gauche, en fait. Il y a beaucoup d'injonctions à gauche, en fait. Mmh. Pourtant, j'ai des valeurs de gauche, mais... Moi, ça me désole, en fait. Mmh. Ça me désole parce que on dirait que tu peux pas penser librement. T'as plus le droit de questionner. Il y a plus de débat.
Presque un truc sectaire dans ce que tu racontes,
ouais.
Là.
Ah, mais totalement. Il y a pas de débat. Quand tu poses des questions, on te dit que t'es violent. Non. En fait, quand je pose une question, c'est pour définir les contours d'un sujet. Quand je demande des définitions, c'est la même chose. Parce que tu peux pas débattre sans avoir une base solide. Sauf qu'en fait, le débat n'est pas admis, donc bah... Salut, en fait.
Mais alors, depuis que t'as dit salut, comment tu fais pour continuer à mener tes combats et à te battre, quoi ?
Bah, disons qu'en fait, je fais un travail de fond. Donc, ce mémoire, je l'ai pas abandonné. J'écris depuis très longtemps. Et j'ai des projets qui sont très importants en ce moment, qui sont tout autres. Parce que, pour moi, les réseaux sociaux, ça, c'est pas... Ça commence à devenir très malsain pour plein de raisons.
C'est quoi les raisons ?
Bah déjà, sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui... J'ai l'impression que c'est le lieu d'expression des phobies d'impulsion des gens. Mmh. C'est le lieu d'expression du contradictoire à outrance. Et c'est comme si, en fait, il y a une photo, il y a un post, le but de chaque personne, c'est de trouver ce qui ne va pas.
Ouais.
La violence est banalisée, la victimisation est banalisée, le harcèlement est banalisé, c'est moche. C'est moche. Et de toute façon, ça ne durera pas indéfiniment. C'est bien que ça existe. Moi, ce que je fais, ça s'inscrit dans une complémentarité, encore une fois. Donc, tout ce qui existe, c'est bien que ça existe. Mais moi, je dois aller... je dois être active autrement.
Parce que ton pseudo, c'est dire le bise.
Dire le bise.
Mais c'est bien plus que ça, visiblement. C'est aussi un projet.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu ?
Alors...
Même si c'est des trucs confidentiels et que tu me diras en off. Mais c'est quoi ouais.
Le projet, c'est... Le projet,
ouais, les objectifs de dire lobbies, de ce projet, de...
Bah en fait, c'est assez simple. Je maîtrise les moyens, mais pas les fins. Donc, je complète ma phrase.
Ouais, parce que là, je ne l'ai pas.
Je maîtrise les moyens, c'est-à-dire que je donne des outils. Je donne des objets d'études, donc mes histoires dans le futur. Et les outils... Les moyens, c'est donner aux gens des possibilités de réfléchir par eux-mêmes. Mais du coup, je ne maîtrise pas la fin. Tu vois, un influenceur maîtrise la fin parce qu'un influenceur va dire, voilà, je pense comme ça, pensez comme ça, ou je fais ça, faites ça. Moi, je vais te dire, je te donne ces outils, je ne sais pas ce que ça va donner chez toi. Possiblement qu'à la fin, tu ne vas pas du tout penser ce que moi, je pense, mais ce n'est pas grave parce que en fait, l'un des soucis dans cette société, c'est qu'il n'y a plus de pensée complexe. Les gens récitent des mantras sans même comprendre ce qu'ils récitent. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se parle et il faut que chacun puisse réfléchir par lui-même. Et ça passe par lire de tout, écouter de tout. Et quand je dis de tout, et là, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais c'est... Tu lis des trucs d'extrême gauche et d'extrême droite. Tu lis de tout, tu essaies de tout comprendre, de comprendre la complexité des pensées de chacun. Ça ne veut pas dire que tu cautionnes, ça veut dire que tu comprends. Et en fait, si tu n'as pas cette base de compréhension, tu ne peux pas avancer. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis je ne maîtrise pas la fin, parce que ça se trouve, en donnant des outils, bah, les gens vont aller vers un truc que je ne cautionne pas du tout. Mais est-ce que ce n'est pas ça qu'on mérite ? Est-ce que ce n'est pas la société qu'on mérite ? Et de toute façon, si on ne se comprend pas, il n'y aura pas de consensus. Mmh. Comment tu veux discuter avec des gens si tu ne les comprends pas ? Donc, vraiment, je donne des outils et je fais l'inverse d'influencer.
Toi, oui, en fait, c'est que tu t'adresses à des gens qui veulent questionner, qui veulent...
Bah, c'est un compte de réflexion, ouais. Clairement. Et ça marche, parce que ceux qui comprennent ce que je fais me disent, c'est super, ça change même la vie des gens, parfois. Parce que on est dans un moment où les choses sont très binaires. Il y a des gens qui se coupent de membres de leur famille juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions... Alors que s'ils discutent, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont les mêmes valeurs, certes pas les mêmes opinions, parce qu'ils n'ont pas eu le même cheminement de pensée, mais j'ai reçu des histoires de gens qui se sont brouillés avec leurs grands-parents, entre-temps, les grands-parents sont décédés. Enfin, c'est horrible. Juste parce qu'on te dit, là, oui, si tes proches ne pensent pas comme toi, il faut les cancel.
Mais non.
Ah Ah non, surtout
non,
pas.
Non, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Non. Enfin, il peut y avoir ça, mais il peut aussi y avoir... Moi, je sais que j'ai coupé les ponts avec certaines personnes et avec des gens de ma famille aussi. Mais c'est pas parce que... C'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec moi. C'est qu'il y a un truc où... Je dis souvent, on parle pas le même langage. Pourtant, j'ai essayé de comprendre leur langage. Je suis pas sûre qu'ils aient essayé de comprendre le mien. À un moment, je vais pas essayer de... Sans arrêt.
Ah mais non.
Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, mais là, je te parle de la famille, mais de... En fait, tu sais, c'est... Je parle d'un truc très, très léger, hein, vraiment. Avant, j'étais chanteuse, et j'étais en maison de disque, Universal, tout ça, machin. Et mon manager, c'était mon éditeur aussi, donc nul. Enfin, compliqué pour lui. Et en fait, je sentais qu'il n'était pas excité par mon projet. Je savais qu'il parlait derrière mon dos, qu'il disait que le projet était mort-né, enfin, tu sais, des trucs...
Sympa.
Un peu dur et tout. Et en fait, j'avais la sensation que je devais tout le temps l'exciter. Donc en fait, il bandait mou tout le temps. Et qu'en fait, il bandait jamais dur. Enfin, j'en sais rien, ouais, hein, mais c'est vraiment l'image que j'avais. Et que j'étais dans un truc de à l'exciter tout le temps. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais je vais pas me battre. Je vais pas me battre éperdument. Si je vois que face à moi, ça ne fonctionne pas. Et c'est pareil, je trouve, dans toutes les relations. Là, je te donne un exemple précis. Mais dans toutes les relations et dans tous les sujets, si on n'est pas d'accord, mais qu'on arrive à s'entendre, qu'on peut... Enfin, le Covid, tu vois, ça a été un sujet aussi, tu vois, des gens qui... Les antivax, les machins... dans ma famille, meuf, ça a été un sujet, hein.
Oui, mais tu vois, ça, c'est la binarité des choses.
Bah ouais, mais tu vois, mes parents, typiquement, c'est des antivax et machins, et en fait, ils nous traitaient de ouf parce qu'on se vaccinait. Ils disaient, mais vous êtes malade à le faire et tout. En fait, je leur ai dit, mais en fait, moi, je respecte complètement vos choix, vos décisions, mais en fait... Nous, on le fait pour d'autres raisons, et j'aimerais bien qu'on s'entende aussi là-dessus, que chacun respecte les positions.
D'où le témoignage comme objet militant le plus efficace. Parce que le témoignage, ça permet de comprendre.
Oui, oui, bien sûr. Oui, mais...
Après, tu sais, toi, tout ce que tu fais, je me dis, t'as quel âge ?
35.
T'as 35 ans, voilà. Là, les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui ont entre 15 et 20 ans, et c'est pour eux que c'est dangereux. Toi, tu sais faire tes choix toute seule, tu vas pas cancel les gens bêtement, enfin... Mais il y a quand même beaucoup de gens dans la vingtaine qui s'abreuvent de ce genre de discours et c'est...
Donc tu te bats pour les 20, pour les petits jeunes ?
Ben, entre autres, ouais.
Ouais.
J'aimerais bien qu'ils gâchent pas une partie de leur vie parce qu'il y a des modes de pensée, il y a clairement de la contagion sociale à ce niveau-là. Mais du coup, pour revenir à ta question, parce que sinon je vais oublier, mon but ultime, via tout ça, c'est de bouger le projecteur de la charge de la culpabilité dans ce qui est notamment écologie. Tu sais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On te dit qu'il faut pas manger machin truc et par ailleurs t'as des pubs pour manger des. Enfin, c'est et l'écologie c'est pareil. On te dit oui petit peuple ne faites pas ci ne faites pas ça. Tu vas dans le métro t'as des pubs pour les compagnies aériennes. Enfin, c'est un délire et le pouvoir, enfin pour moi, il y a une scission majeure dans le monde, c'est les dirigeants, le peuple.
Ah mais de ouf.
Et par dirigeants, c'est pas juste les politiques.
Non.
C'est aussi les patrons de multinationales, tous les gens qui ont le pouvoir.
Les lobbyistes et tout ça, bien sûr. Ouais.
Leur délire, pour pas qu'on regarde ce qu'ils font, c'est de nous diviser constamment.
Ouais.
Et ça, ils savent trop bien le faire. Dès qu'on commence à regarder un peu ce qu'ils font, tu vois le sujet du voile qui débarque.
Ouais.
Le sujet...
Tout.
Tous les sujets en fait qui ressortent à chaque fois. Et mon but, via la complexification de la pensée, c'est de bouger ce projecteur.
C'est de déculpabiliser le citoyen aussi,
bien
quoi.
Sûr. Alors,
mais c'est vrai que cette histoire d'avion, c'est quand même très juste. C'est que il y a beaucoup de gens qui font des Paris-Toulouse parce que ça coûte 20 balles, alors que en effet, ça te nique ton empreinte carbone. Mais taxer le kérosène, les gars, en fait, et puis à un moment, les choses bougeront. Moi, je prends le train parce que j'ai le luxe de pouvoir le prendre financièrement. Mais qu'est-ce que ça me fait chier de passer 6 heures parce que j'ai un peu une conscience écologique. Mais en fait, c'est pas de ma faute. Enfin, en fait, si demain je prends l'avion. Dis-toi, ça fait 5 ans que j'ai pas pris l'avion, tu vois, parce que pour des vraies convictions écolo, vraiment.
Je sais pas.
Ouais.
Ah ouais.
Et pourtant, on a envie de repartir au Japon, on va le faire. Et cet été, on a envie de partir en Écosse. Et j'ai dit à mon mec, je fais, tu vois, en fait, ça me fait trop chier de prendre l'avion, parce qu'en fait, je vais l'empreinte carbone, ça me fait trop chier. Je dis ouais, mais on va pas, enfin, et donc forcément, la culpabilité, elle est là, parce qu'en fait, on n'arrête pas de te dire, sois coupable. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un peu ce truc de, tu peux pas prendre l'avion. Oublie pas, la France, c'est quand même super sympa. Ne va pas voir ailleurs. on n'arrête pas de nous le dire, et en même temps on nous invite à le faire. Enfin, c'est très difficile de se faire un avis pour tout, quoi.
Il y a de quoi nous rendre dingue.
Ouais, franchement.
Et moi, je suis contre ça. J'en ai marre que le peuple finisse dingue avec des dissonances cognitives de partout, alors même qu'on vit dans le monde dans lequel on vit. C'est impossible d'être parfait dans ce monde-là. Donc du coup, j'aimerais... Alors certes, il y a des comportements individuels qui sont problématiques, mais tout ça, c'est symptomatique.
Ouais.
Elle est où, la cause ? C'est pour ça que je suis dans la radicalité. La radicalité, c'est pas l'extrémiste, etc. La radicalité, c'est aller à la racine des choses.
Ouais.
Et la racine des choses, c'est ce que font les dirigeants. On va te dire, arrête de boire dans des bouteilles en plastique, arrête de produire du plastique.
C'est clair.
Arrête d'autoriser la production de plastique, c'est une blague.
Ouais.
Enfin...
Donc, genre les gens qui fument, arrêtez de fumer. Bah arrêtez.
Enfin, mais non, mais ça c'est... Oui, la drogue, machin, mais excuse-moi, tu peux trouver de l'alcool où tu veux, tu peux fumer où tu veux. En fait, les drogues qui dérangent sont... Alors, c'est pas politiquement correct non plus, mais j'ai l'impression que les drogues qui dérangent sont certaines drogues qui permettent d'accéder à des états de conscience modifiés et qui permettent de voir le monde un peu autrement. Mais ça, c'est un sujet complètement à part. En revanche, les drogues qui dégomment la santé, l'alcool, la cigarette, ça, oh, bah c'est autorisé, tu vois. Et c'est comme ça pour tout. En fait, le pouvoir ne protège pas. Le pouvoir se protège constamment. Et pour se protéger, ils font bugger nos lunettes, ils nous font nous regarder entre nous, alors même qu'on devrait les regarder eux. Ils sont très forts là-dedans. Donc,
est-ce qu'il y a des choses que t'évites de faire ?
Comment ça ?
Je sais pas. Je sais pas.
Attends, dans la vie ou sur les réseaux ?
Sur les réseaux, est-ce qu'il y a des choses que t'évites de faire pour... Est-ce que tu veux parler d'une certaine manière ou pas parler d'une certaine manière ? Est-ce que... Ou pas du tout, ou tu te mets aucune limite
Je fais ce que je veux.
Je veux dire, est-ce que tu vas plus privilégier un axe plutôt qu'un autre ? Est-ce que, par exemple, tu vas privilégier certains trucs dans ton approche ?
Par exemple, je fais pas de vidéo.
Ah ok, voilà, bah, c'est ça que je voulais.
Je ne fais que de l'écriture. Pourquoi ?
Tu te montres jamais.
Ça m'arrive, mais...
Là, on va te voir, tu sais.
Ouais, bon, c'est pas grave.
Okay.
Non, mais je suis pas non plus contre le fait de me montrer.
Ouais.
En fait, c'est simple. C'est pas par rapport au fait de me montrer ou pas. C'est juste que dans le cerveau, et moi je veux rentrer dans le cerveau des gens, la lecture n'a pas le même effet que le visionnage. Si je te montre une série, tu vas voir la série telle qu'elle est. Basta. Si je t'écris cette série, tu vas déjà la lire, faire un effort, et tu vas tout imaginer en fonction de ta grille de lecture à toi. Et ça, c'est complètement différent. Parce que tu vas en rêver, possiblement. Ça va t'imprégner d'une autre manière. Donc, je suis pour l'écriture, et aussi parce que les gens perdent toute leur capacité d'attention, leur temps de cerveau. Enfin, encore une fois, c'est dans une complémentarité. Peut-être que si tout le monde faisait de l'écriture, je ferais des vidéos, j'en sais rien, parce que j'essaie toujours de compléter ce qui existe déjà pour être efficace. Donc, ouais, je fais beaucoup d'écriture, et aussi notamment parce que pour moi, faire des vidéos, si j'ai de la notion d'empreinte écologique, je ferai des vidéos quand j'aurai vraiment des choses à dire et que ce sera utile que je le fasse, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, j'écris.
Ok.
Voilà. Après, est-ce que je m'interdis des choses ? Je me suis rendu compte que mes haters m'ont sauvé mon cerveau.
C'est-à-dire ?
Ben, dans les années 2019-2020, là, quand on commençait à me dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois surtout pas aller lire ce que fait telle personne, tu dois te désabonner de ce compte, machin », moi, quand tu me dis de pas faire un truc, j'ai envie de le faire. Et du coup, on m'a dit « va pas lire ci, va pas lire ça ». Du coup, bah, j'ai fait quoi ? Je suis allée lire. Et en fait, ça... D'un coup, j'ai atteint un level de lecture, puisque maintenant, je comprenais à peu près tout le monde. Et ben, j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de puissance et une vision bien plus réelle de la vie et du monde. Et ils m'ont sauvée, parce que franchement, il y a 4 ans, 3-4 ans, tu me disais que tu lis le Figaro ou quoi. J'avais même plus envie de te parler parce que c'est un journal de droite. Mais j'étais bête comme ça. Alors, les gens qui font ça ne sont pas forcément bêtes, mais moi, je me juge, j'étais bête. Et c'était stupide parce qu'en fait, même dans ta logique de combattre des idées, comment tu veux combattre un truc que tu ne comprends pas ? Donc, ils m'ont sauvée à me faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Mais à force de me dire de ne pas le faire, je les ai faites. Et maintenant, je lis de tout, j'écoute de tout. Et ça me permet d'être vachement plus réaliste dans mon appréhension des choses.
Mais c'est vrai qu'avoir des retours négatifs peut vachement ouvrir l'esprit, en fait.
Ah bah.
Au lieu de prendre un truc contre soi, de être comme ça, tu peux aussi dire...
J'étais quand même comme ça. Vas-y, je vais lire quand même.
Mais tu vois, je pense à un autre truc. Il y a longtemps, j'ai fait une vidéo avec d'autres créateurs de contenu, d'autres youtubeurs en fait, où on parlait de nos complexes. Mmh. Et à un moment, j'ai parlé de mes complexes et j'ai dit, je vais le redire parce que j'ai dit, moi j'ai longtemps complexé de mes seins parce que, je le dis vraiment comme je l'ai dit, parce que en fait j'ai des seins de noir, j'ai des grosses auréoles, j'avais dit, comme les noirs. Mais à ce moment-là, quand je l'ai dit, pour moi c'était genre random, parce qu'en fait on m'a toujours dit ça. Genre ma tante, ma mère,
quand... Ah oui, t'as répété un truc qu'on t'a dit.
Exactement, donc en fait pour moi il n'y avait rien de raciste. En fait, quand on m'a dit « Juliette, t'es raciste », j'étais genre « Quoi ? Pire chose au monde ?» Tu peux m'insulter de grosse, de ce que tu veux, tu vois. De raciste, j'étais genre « What ?» Après, je me suis... on m'a dit « Mais c'est du racisme banalisé, en fait, tu t'en rends pas compte. » Déjà, dire « Renoir, Black », tout ça, j'avais pas du tout. Et en fait, je me suis pris une sauce. Mais vraiment, sur Twitter, j'ai même supprimé mon compte Twitter à ce moment-là. C'était un enfer. C'était atroce, atroce. Et en fait, j'aurais pu juste dire « Les gens sont des cons ». Et en fait, j'ai dit, j'ai été conne. Et j'ai appris, en fait, j'aurais pas dû dire ça. Et c'est complètement du racisme banalisé. Pas pour autant que je suis raciste, mais c'est du... ça a été un propos raciste.
Il y a des nuances.
Exactement. Et en fait, je trouve qu'en effet, ça peut vachement construire, te construire toi, construire ton propos, de t'intéresser à. Mais ça veut dire, c'est quoi le racisme banalisé? Qu'est-ce que c'est le racisme systémique? C'est de s'intéresser un petit peu à ces trucs-là. Je trouve que ça peut vachement nourrir.
Après, ça dépend de l'intentionnalité, tu vois. Si les gens t'attaquent parce qu'ils se disent « Ah, c'est un moyen de l'attaquer, je vais pouvoir me défouler. »
Écoute, en tout cas, moi, j'ai vraiment eu ce truc de « Juliette Katz est raciste. Elle est raciste. Bah, » elle dit qu'elle a des seins
de... Pour connaître l'envers du décor, il y a des gens qui sont vraiment dans l'intention de faire évoluer les choses. T'en as d'autres qui ont la haine.
Ah bah, évidemment.
Ce que je peux comprendre aussi.
Bien
sûr. Mais oui, c'est vrai que ça... Après, quand c'est constructif et qu'il y a une bonne intention derrière,
bien sûr,
c'est intéressant. Et moi, ce que tout ça a généré chez moi, c'est que maintenant, je m'en fous de plaire.
Ouais.
Je m'en tape des étiquettes qu'on me colle parce que franchement, ça c'est un des moyens de faire taire quelqu'un. Bouh, t'es comme ci, t'es comme ça. Oh, ouais. Pense que tu
veux, enfin, tu t'en fous de plaire. Oui,
ah,
oui et non, parce que ton compte Instagram, t'as besoin que les gens regardent et aiment ton contenu pour continuer.
Non, pas forcément. J'ai perdu genre 7000 abonnés depuis toutes ces histoires.
Moi j'en ai perdu 100 000.
100 000
ouais. Pas à cause de ça. Hein.
Ah ouais?
Non, j'ai perdu 100 000 parce que j'ai pas montré mon fils.
Ah. Oh. C'est un sujet, ça.
J'ai accouché pendant toute ma grossesse. Putain, mais alors je faisais des likes. Je faisais 450 000 likes, des trucs de ouf. Et j'ai accouché et j'ai dit déjà toute la grossesse, je dirais jamais que j'ai un fils. Et puis j'ai dit que j'avais un fils, finalement. Je donnerai pas son prénom et je le montrerai pas. Et en un an, j'ai perdu 100 000 abonnés. À peu près. Je continue encore,
bah,
un peu
écoute,
parfois.
Tu fais bien.
Oh, bah, moi, je
vu
fais
le
bien.
Danger qu'est Internet pour les enfants.
Je sais bien. En tout cas, j'imagine que pour toi, pour revenir un peu à toi, quand tu dis que t'as perdu 7000 abonnés, mais t'as quand même ce besoin que les gens regardent ton contenu pour que...
Non, pas vraiment, parce que c'est encore et toujours un objet d'étude. En fait, c'est ce que tu vois de dire Lobbies, c'est un brouillon.
Podcast.
On m'a dit qu'un de tes centres d'intérêt, et que je connais pas du tout, du coup j'ai envie de te demander, c'est un truc qui s'appelle le nudge.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que j'ai envie de manger ça. Le nudge, pour moi, c'est un truc que tu manges.
Ah non.
Pas du tout.
Le nudge, c'est une technique de manipulation.
Ok.
À la base, c'est une technique marketing qui te permet de faire quelque chose sans même que tu t'en rendes compte. Un exemple. À Amsterdam, dans un bar, il y avait énormément de frais de nettoyage dans la pissotière des hommes.
Ok.
Parce qu'ils pissaient dans tous les... Voilà, ils étaient bourrés, ils pissaient partout. Et quelqu'un s'est amusé à mettre une petite mouche peinte dans chaque pissotoir. Et les mecs bourrés s'amusaient à la viser. Du coup, frais de nettoyage réduit de 3/4 parce que d'un coup, les mecs pissaient dans la pissotière. Et ça, c'est du nudge. Il y a aussi, par exemple, une politique de santé publique qui veut que les gens marchent plus. Ils vont peindre un piano sur les marches, ils vont mettre un système de son, les gens s'amusent à marcher parce que ça joue du piano. Sans le savoir, tu les as fait marcher. Du nudge, ça peut être aussi, tu rentres dans un centre commercial, tu sens fort les croissants. C'est une odeur synthétique qui a été mise là par la boulangerie ou je sais pas quoi, pour te faire aller manger, pour te donner faim. Donc c'est ça le nudge. Et en fait, t'as plusieurs choses quand tu veux parler de sujets...
C'est de l'appât, quoi.
Ouais, c'est de la... Oui, c'est une sorte d'appât qui te fait sauter sur l'appât sans que tu t'en rendes compte. Et donc, quand tu parles de sujets complexes, tu peux faire le choix de vulgariser, donc tu simplifies, ou... Moi, j'ai pas fait ce choix parce que je pense que vraiment tout le monde est capable de comprendre un truc hyper complexe si l'intérêt est là. Et le nudge, chez moi, c'est je t'écris une histoire dans le futur que tu vas lire, tu vas te dire « Oh, c'est possible ou pas ?» Je te dirai pas. Et je te mets un paragraphe d'un rapport scientifique. Mon nudge à moi, c'est je t'amène à ce truc. Je t'amène avec l'intérêt que j'ai suscité à ce truc qui n'est pas très long, mais que du coup, tu vas lire avec attention et que tu vas comprendre. Parce que on a tous le souvenir, je pense, d'un devoir dans notre vie qu'on a fait avec sérieux, parce que ça nous intéressait, et on s'en rappelle encore. Et on se rappelle aussi de cette sensation d'avoir bien fait le truc. Et ben, quand je t'ai amené là et que tu as lu ce paragraphe, ça te fait de la matière à penser et ça te fait de la matière à raconter aussi. Tu vois, si tu parles maintenant de ce sujet, tu as lu ça, tu as compris ça. Et c'est pour ça que je dis, moi, je ne méprise pas les gens qui me suivent. Je pense que tout le monde est intelligent et je te donne des outils. Donc, c'est ça mon nudge. Alors, après, attention, parce que ça peut être... C'est de la manipulation quand même, tu vois. Moi, parfois, je me dis, je pourrais être dangereuse parce qu'il y a trop de gens qui me font confiance. Et je dis toujours, ne soyez pas d'accord avec moi. Réfléchissez. Parce que les gourous, ça s'installe très facilement.
Ouais, c'est clair.
Si moi, demain, je commence à vouloir devenir un gourou, je peux le devenir. Mais c'est grave. Parce qu'après, tu rentres dans l'opinion d'affiliation, les gens qui s'affilient à ton avis parce que c'est toi et parce qu'ils te font confiance.
Ouais.
Mais surtout pas, il faut surtout pas faire ça.
Ah ouais.
Donc, je suis toujours en train de faire attention à ça. Là où d'autres à côté, d'autres comptes militants te disent « c'est comme ci, c'est comme ça, tu dois pas questionner ». Moi, je me pose la question de l'intention de ces gens. Tu veux vraiment faire évoluer les choses ou est-ce que tu veux te faire mousser, nourrir ton ego, faire du communautarisme? Je sais pas. Mais en tout cas, tu peux être sûr que de l'extérieur, ça marche pas.
Il y a quelques fois où j'ai parlé avec des activistes, des militants, en tout cas des gens qui sont impliqués dans l'écologie notamment. À chaque fois, j'ai eu des regards très doux. Tu vois, pas de... Genre Swann Périssé, qui est pas une... qui est une activiste.
Mais tu vois, elle, j'adore ce qu'elle fait parce qu'elle le fait différemment.
Ouais, et puis en plus, je trouve qu'elle a un truc. C'est pas une active. Enfin, elle est très impliquée dans l'écologie, mais en fait, comme tu dis, elle témoigne, t'as raison. Mmh. Et puis en fait, elle est vénère. Mmh. Et je sais que toutes les fois où on a pu parler, en fait, à aucun moment, elle va dire, mais c'est de la merde ce que tu fais. À aucun moment, elle va juste dire, bah, c'est trop bien de faire ça comme ça. Et puis, si t'as envie de prendre l'avion, bah, fais-le. Je parlais avec Arthur Roboeuf, qui est venu d'ailleurs aussi ici. Tu vois qui c'est ou pas?
Time for Planet.
Exactement.
Ouais.
Je trouve qu'il y a aussi un regard. Intéressant, tu vois, sur ça. En fait, je pense à plein de gens, même Cyril Dion, tu vois, j'ai déjà échangé, où je trouve qu'il y a, des regards où on n'est pas dans le jugement, tu vois. Mais je vois qu'il y en a qui le sont. Et je vois qu'il y a des paroles qui sont très dans une truc de dictatorial, tu vois, un truc de... C'est comme ça.
Après, est-ce que ces gens n'ont pas besoin de passer par là? Parce que moi, je suis passée par là. J'ai été cette personne et ça m'a construite, finalement. Donc, peut-être qu'ils ont besoin de passer par là. Quel est le but? Je sais pas. Et ce que je disais à Julien en préparant l'émission, moi, en testant des nouvelles choses, je me mets plein de gens à dos.
Bien sûr.
Mais ce que je dis à ces gens, c'est que j'ai pas besoin de les convaincre eux, en fait. Moi, ça m'intéresse pas de convaincre des convaincus. Je veux convaincre les gens à convaincre, quitte à ce que les convaincus soient pas contents. Parce que, en fait, t'es déjà convaincu. Si t'es pas content, je m'en fous, en fait. Alors, c'est encore une fois pas politiquement correct. Mais c'est pas à toi que je m'adresse. Si maintenant, tu veux rester dans ton coin, à faire toujours les mêmes actions qui, pour moi, ne fonctionnent pas, grand bien te fasse, mais ne m'empêche pas de moi et d'essayer de faire d'autres choses, en fait. C'est pour ça que je perds des gens continuellement, parce que... Parce qu'ils... Peut-être qu'ils comprennent pas, mais... Bref. Ah, je me suis briefée, tu vois.
Je me suis briefée. C'est quoi le regard que tu portes sur ton parcours un peu atypique?
Je suis ultra fière de moi.
Ouais.
Et ça, c'est un truc qu'on me reproche parfois. On m'a déjà dit récemment, t'as trop confiance en toi.
Non.
Moi, j'ai confiance en moi.
Je pense qu'on peut jamais avoir trop confiance en soi.
J'ai super confiance en moi, mais je suis super humble.
Ouais, bah voilà.
Et j'ai aucun complexe de supériorité vis-à-vis de qui que ce soit. Mais ouais, je suis super fière de moi. Parce que franchement, j'aurais pu me ramasser et j'aurais pu carrément mourir de tout ce que je suis de tout ce qui m'est arrivé. Il y a un moment où j'avais envie de mourir après l'histoire de la prison. Ouais. Donc, je suis fière de moi. J'aime la personne que je suis. Je m'aime. Franchement, je m'aime beaucoup. Et du coup, je regrette rien de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Autant, j'aimerais pas le revivre.
Ouais.
Autant, c'est comme ça. Et ça m'a forgée. Et je suis bien contente d'en arriver là où je suis.
Tu penses que tu vas vraiment bien depuis combien de temps? Et pourquoi?
Depuis un an et demi.
Ouais, c'est pas mal.
Alors, ça a été progressif. Ça fait longtemps que je vais bien, mais ça fait peu de temps que je vais vraiment bien. Il y a un an et demi, donc après les histoires dans le militantisme et tout, En fait, je leur ai dit... Bon, j'avoue, je leur ai dit comme ça, mais c'est pas forcément... La forme n'est pas bonne. Je leur ai dit, niquez-vous tous, en fait. Laissez-moi tranquille. Arrêtez d'avoir des attentes, parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Je suis pas ci, je suis pas ça. Je suis plus écolo, je suis plus féministe, je suis plus machin. Ah, n'attendez rien de moi, vous me saoulez. Et en fait, je me suis laissée tranquille à tous les niveaux. Par exemple, j'avais des troubles alimentaires jusqu'à il y a encore pas longtemps. Et il y a un an et demi, encore une fois, c'est pas politiquement correct et ça ne me regarde que moi, j'ai fait un truc il y a un an et demi. Je dis, Roxane, tu vas manger quand t'as faim. Parce qu'en fait, tu lis des études qui se contredisent. Oui, il faut faire ci, après 2 ans plus tard, faut plus le faire, machin. J'y vais, écoute, Roxane, tu vas t'écouter. Tu vas manger quand t'as faim. Donc au début, je mangeais n'importe quoi. Et puis à un moment, à force de manger du Nutella tous les jours, bon, pas forcément du Nutella, bah tu commences à avoir envie de légumes. Mais t'en as envie. Et puis t'as envie de salé. Et maintenant, je n'ai pas d'horaire de repas. Je mange quand j'ai faim. En fait, je me suis reconnectée à mes ressentis. Parce qu'en fait, on sous-traite tout.
Et tu te sens mieux depuis que...
Mais je me suis jamais sentie aussi bien, en fait. Ouais. Je me sens trop bien. Et je me dis, mais en fait, c'est logique. Je crois que ça s'appelle la nutrition intuitive.
Ouais, je crois que c'est ça.
Mais c'est même plus ça, parce que moi, je réfléchis même pas, en fait.
Oui.
J'y réfléchis même plus. Et je suis plus puissante, même musculairement parlant. Parfois, tu vois, je vais manger 3 poissons en un jour. Et puis après, je vais pas manger jusqu'à 18h. Et puis après, le lendemain, je vais manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi ou j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport.
Podcast.
Et pour terminer, face au lobby, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'impliquer? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux gens qui sont en colère, qui ont envie de s'impliquer?
Se détacher du jugement des individus. Première étape. Arrêter de juger les individus, parce que tous les comportements des individus, aussi atroces puissent-ils être, sont des symptômes de ce qu'on attend de nous. Si déjà, ils arrivent à conscientiser que tous les gens autour d'eux ont des comportements symptomatiques et qu'ils arrivent à conscientiser aussi que la cause, ce sont les dirigeants, bah, ça leur fera déjà beaucoup de charge mentale en moins. Moi, avant, je jugeais les gens constamment. Oui, bouteille en plastique, oui, machin, oui, truc. Ça m'épuisait.
Ouais, c'est clair.
Ça m'épuisait.
Ouais, c'est clair.
Et puis, c'était pas sympa pour les autres. Et puis, j'emmerdais mes proches tout le temps. Déjà, tu te détaches de ça et tu vas à la source et tu luttes contre ce qui est fait en face, c'est-à-dire ils veulent toujours créer des scissions, des divisions entre les gens.
Ouais.
Oublie ça. Remets ton projecteur au bon endroit, c'est eux le problème, en fait. C'est de eux et de leur comportement que découle tout. Et mon grand questionnement, et je pense que je finirai par ça, j'aimerais étudier leur cerveau. Je me dis, est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ont un plan B? Comment tu peux consciemment détruire ta planète, celle de tes enfants? T'as un plan B? Ou t'es fou? Ou t'as... un problème hormonal qui te délivre trop de dopamine parce que t'es puissant, parce que t'as de l'argent, parce que ceci.
Moi, j'ai la réponse. Hein.
Ah ouais?
Bah, c'est l'argent.
Mais oui, mais donc t'es fou.
Bah, c'est parce que c'est. En fait, c'est même pire que l'argent.
C'est l'argent à court terme.
C'est l'ego et l'argent.
Mais donc, du coup, ça, tu sais, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'hubris. Les gens qui ont trop de pouvoir, trop de notoriété, trop d'argent peuvent être atteints de ce symptôme. Les chefs d'État en sont pour la plupart atteints. Ça inonde ton cerveau de dopamine et ça te fait prendre des décisions merdiques.
Bah ouais.
Et moi, je me dis, mais ces gens sont malades.
Ouais.
Ou alors, ils ont un plan B qu'on ne connaît pas.
Ouais. Et moi, j'arrive pas à croire ça encore. Mais why not, hein? Franchement, je suis pas contre, hein, cette histoire de plan. Enfin,
je pense qu'ils en ont pas un, tu sais pourquoi? Quand tu vois les bunkers qui sont en train de se construire, bah là, depuis 2018, c'est qu'ils ont prévu de rester sur cette planète avec nous.
Non, mais c'est en fait, moi je trouve que tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'en fait ça n'ira jamais parce que les lobbyistes, quel que soit, et le gouvernement et tout ça, c'est que des histoires d'argent et d'ego et le pétrole et le. En Ukraine, partout.
Dirigeant peuple.
C'est que des histoires d'ego et d'argent. C'est que ça le nerf de la guerre. Donc,
c'est pas eux qui vont s'entretuer, hein.
Non, mais c'est terrible. Donc, pour compléter, parce qu'on va terminer là-dessus, pour compléter, je suis assez d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut arrêter de juger les uns et les autres. Et je voulais d'ailleurs faire un petit point là-dessus. On a tendance, l'humain, on a tendance à vachement critiquer les autres pour venir se rassurer soi. C'est-à-dire, oh, t'as vu comment ils éduquent leur fils? Non, mais c'est n'importe quoi. Alors que nous, les horaires, elles sont hyper calées. T'sais, je te dis un détail parce que je suis daronne et que je l'ai fait, que j'allais vachement critiquer de, ah, putain, la meuf, elle prend encore 8 biberons à son âge. Oh waouh. En fait, mêlez-vous de vos culs, vraiment. Et s'il y a quelque chose qui vous touche, battez-vous et impliquons-nous. Mais de venir critiquer l'autre, ça ne fait rien. Enfin, pour moi, il n'y a rien de bon à part venir se flatter l'ego. Et d'ailleurs, le haters, tu vois, le bon vieux con haters ou la bonne conne qui vient juste dire hey, « Eh, t'es nul, t'es moche », c'est simplement pour dire « Ah, mais regardez, mais comme les gens qui ont harcelé à l'école, enfin, bref. » Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est important de, en effet, se battre pour des choses qui nous parlent et qui nous semblent importantes, mais de tout le temps dire « Attends, toi, t'as pris l'avion hier, putain, c'est pas bien. Nique-toi. » Vraiment, ouais, genre, pardon. Mais même moi, je critiquais. Moi, je me disais « Putain, c'est pas ouf les gens qui prennent l'avion pour faire un Paris-Marseille, ils pourraient prendre le train. » Bah ouais, mais ça coûte 3 fois plus cher et ça prend 6 heures de plus. Donc on fait comme on peut et les gens font comme ils peuvent. Voilà, ce serait le mot de la fin parce que voilà, je trouve que c'est bien. Merci beaucoup Roxane d'être venue nous parler de ton histoire, de ton expérience, de ce que tu traverses comme réflexion. Son compte Instagram, c'est Dear Lobbies, LOBBIES, mais je pense qu'on le mettra dans la description. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être toujours au rendez-vous, d'être de plus en plus nombreux, parce que ça augmente petit à petit, mais franchement, vous êtes là et ça me fait beaucoup de bien. Je vous le dis très souvent, donc je vous le redis encore une fois. On sera le 19 juin au Cabaret Sauvage à Paris. On fera un podcast en live avec un public où il y aura à peu près 500 personnes. Et l'idée, c'est vraiment de partager un moment commun où on parlera du célibat de longue durée. Il y aura des invités, une première partie, il y aura vraiment des trucs, des moments très chouettes. Je vous invite à aller regarder sur Instagram pour prendre vos places. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.